VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcil et Camille Gros-Didier, bonsoir, bienvenue à l'édition de ce lundi 31 août 2015. À la une ce soir.
Conflit en RDC, 6 militaires congolais ont été tués dans la région de Rutshuru.
Burundi, au moins 3 morts, tel est le bilan d'attaques perpétrées hier et aujourd'hui, non loin de Bujumbura.
Publication en Côte d'Ivoire de la liste provisoire des candidats à la présidentielle d'octobre. Ils sont au nombre de 33.
Les pays de l'Union européenne continuent leurs efforts visant à trouver une réponse commune à la crise migratoire sur le continent.
Et bien sûr, nous aurons nos segments sur l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, 6 militaires de la garde républicaine ont été tués dans une embuscade à Rugari. Les rebelles rwandais des FDLR sont très actifs dans cette zone, Eddy Sango.
Selon l'administrateur du territoire des Rutshuru, Justin Mukanya, la jeep qui transportait les militaires a été attaquée à la roquette et 6 soldats congolais ont été tués. Selon lui, une enquête est ouverte. Les assaillants n'ont pas encore été identifiés, même si la région est réputée être une zone d'activité des FDLR. L'attaque a eu lieu à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma, capitale du Nord Kivu. Cité par l'agence France Presse, un officier chargé des renseignements à Goma a donné le même bilan. Il y a quelques jours, les FDLR avaient accusé la mission onusienne et les gouvernements congolais d'affamer ces combattants démobilisés qui attendent d'être rapatriés.
3 personnes ont été tuées hier et aujourd'hui dans 2 attaques au sud de la capitale burundaise et dans Bujumbura rural, selon la police. 2 autres personnes ont été blessées. Cette recrudescence de la violence intervient 11 jours après l'investiture du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat controversé. Le point avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Des hommes en tenue militaire ont tiré hier soir en direction d'une maison à la première avenue dans les quartiers de Musaga au sud de la capitale, faisant un étudiant qui est mort sur le champ. Un autre jeune n'a pas survécu après avoir été conduit à l'hôpital militaire, selon des témoignages confirmés par le porte-parole de la police. 3 personnes qui étaient avec ses défunts ont été grièvement blessées. Une autre personne a été tuée très tôt ce matin et son cadavre a été retrouvé dans une fosse dans le quartier de Kanyosha. Depuis la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza, un calme relatif était observé dans différentes localités de la capitale et de l'intérieur du Burundi. Des disparitions forcées étaient devenues monnaie courante ces derniers temps dans plusieurs localités du pays et les services de la police et des renseignements étaient souvent pointés du doigt par la population. La peur de mourir et de disparaître s'est installée aussi bien au sein de la population urbaine que rurale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Des combattants présumés de Boko Haram se sont lancés à cheval à l'attaque de 3 villages du nord-est du Nigeria ce week-end, tuant près de 80 personnes. Idriss Fall.
Les combattants de Boko Haram ont d'abord tué 68 personnes vendredi et samedi dans le village de Banou, puis 11 autres dimanche dans 2 localités voisines. Ils sont venus à cheval et ont ouvert le feu à Banou, tuant 68 personnes, a déclaré à l'AFP Babakoura Kolo, membre d'une milice locale d'autodéfense. Un responsable gouvernemental parlant sous couvert de l'anonymat a cependant ramené le bilan à 56 morts. Saleh Moussa, un habitant, a rapporté qu'une 3e attaque s'était produite dimanche dans le village de Hambagda, où 7 personnes ont été tuées et 5 autres blessées. Les porte-parole de l'armée et du gouvernement de l'État de Borno n'ont pas fait de commentaires sur ces dernières attaques, affirmant qu'ils étaient absents de Maïdougouri pendant le week-end.
En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a publié lundi la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 25 octobre. Seuls les candidats à cette élection ou les partis ou groupements politiques les parrainant sont autorisés à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures, précise le communiqué lu par Ibrahim Koulibaly, le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Selon M. Koulibaly, les plaignants ont 72 heures pour s'exprimer. 33 candidats, dont le président sortant Alassane Ouattara pour le compte du RHDP, Pascal Affine-Guessant pour le FPI, les candidats indépendants Charles Konambani, Bertin Kouadio-Konan et Essi Amara figurent sur la liste provisoire transmise par la Commission électorale indépendante, la CENI, le 27 août dernier.
Toujours en Côte d'Ivoire, la chef de l'opération des Nations Unies, l'ONUCI, a appelé tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs déclarations et à tout mettre en œuvre pour contribuer au maintien d'un environnement électoral apaisé. Aïchatou Mindaoudou s'exprimait à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre. Dans un communiqué, elle a tenu à rappeler que le scrutin sera l'occasion pour le peuple ivoirien de tourner définitivement la page des temps de crise et de renouer avec la démocratie. Le président du Soudan, Omar Hassan El-Béchir, qui est recherché par la Cour pénale internationale, entreprend ce lundi une visite officielle en Chine, Camille.
El-Béchir entame lundi une visite de 4 jours en Chine à l'invitation du gouvernement chinois. Il s'agit de sa seconde visite dans ce pays. Le Soudan est sur la liste des principaux partenaires commerciaux de la Chine, a fait valoir M. Gandour. La Chine a soutenu le Soudan à l'époque difficile où le pays a été lâché par les États-Unis, a-t-il poursuivi, se félicitant que Pékin ait été aidé Khartoum à exploiter ses ressources pétrolières. Les relations entre les deux puissances sont excellentes, a constaté le ministre soudanais des Affaires étrangères. Les pourparlers entre le président El-Béchir et ses interlocuteurs chinois porteront notamment sur les relations bilatérales, les investissements envisagés par les milieux d'affaires chinois au Soudan. La CPI a inculpé le chef de l'État soudanais de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, des faits tous relatifs au conflit au Darfour qui fait rage depuis 2003.
Soudan du Sud, le chef des rebelles dénonce de graves violations du cessez-le-feu. Riek Machar a demandé lundi à la médiation est-africaine de l'IGAD de faire respecter la trêve entrée en vigueur dimanche. Le chef de la rébellion sud-soudanaise a, par la même occasion, dénoncé de graves violations de la part des troupes loyales au président Salva Kiir.
Et puis le coordinateur de l'aide humanitaire des Nations Unies en Somalie indique que les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition sont critiques. Selon Peter de Klerk, la situation des personnes déplacées est particulièrement inquiétante. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire est passé en 6 mois de 731 000 à 855 000, soit une hausse de 17% selon les chiffres publiés lundi.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun a exigé aujourd'hui la libération immédiate de Simon Alteba, ce journaliste d'investigation, ainsi que le correspondant pigiste de Radio France Internationale. International Ahmed Abba ont été interpellés dans le nord du Cameroun, officiellement dans le cadre d'investigations liées à Boko Haram. RFI réclame également leur libération.
L'afflux de migrants se poursuit en Europe via la Méditerranée et les Balkans. Les pays de l'Union européenne multiplient les contacts pour tenter de trouver une réponse commune à la crise. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le Luxembourg, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, va organiser le 14 septembre une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur des 28. Cette réunion, qui se veut une réponse à la crise des migrants, va aussi se pencher sur la politique de retour, la coopération internationale et les mesures visant à identifier et à lutter contre les réseaux de trafiquants. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé dimanche ses partenaires à œuvrer à une meilleure répartition des migrants au sein de l'Union, alors que l'Allemagne s'attend à accueillir 800 000 demandeurs d'asile en 2015. Pour leur part, les chefs de gouvernement de 4 pays d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, se réuniront à la fin de la semaine à Prague pour se pencher sur ce délicat dossier. Il s'agira de définir une position commune en rejetant toute idée de quota pour l'accueil des migrants, a précisé Robert Fico, le premier ministre slovaque.
Le groupe État islamique continue sa campagne de destruction des antiquités dans la ville syrienne de Palmyre. L'AFP rapporte ce lundi une puissante explosion au temple de Bel, un joyau de la cité dans le désert syrien. Il s'agit du 2e acte de destruction en une semaine perpétré par les djihadistes contre un temple de Palmyre, site classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Hier, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait annoncé la destruction d'une partie du temple consacré au dieu Baal.
En Ukraine, un militaire a été tué par balle aujourd'hui à Kiev et des dizaines de policiers manifestants ont été blessés lors d'une explosion pendant la marche contre les insurgés pro-russes. Cette manifestation pacifique devant le Parlement ukrainien a dégénéré en acte de violence quand les législateurs ont donné leur aval préliminaire à des changements exigés par l'Occident et visant à ramener la paix dans l'est du pays. Ce plan soumis à la Chambre par le président Petro Poroshenko prévoit le début de la décentralisation de l'Ukraine d'ici à la fin de 2015. Un vote final est prévu demain mardi.
L'OTAN cherche à calmer les préoccupations de ses membres et alliés face à l'intervention de la Russie au-delà de ses frontières. C'est dans ce contexte que deux avions de combat ultramodernes, des F-22 Raptor, ont atterri ce lundi en Pologne pour des exercices communs. Le F-22 est un chasseur conçu pour les affrontements aériens. Il peut détruire les avions ennemis avant même que ceux-ci puissent le détecter. Il est également capable d'attaque au sol. Par ailleurs, souligne l'AFP, l'OTAN a confirmé qu'à partir de demain, seulement 8 avions de chasse alliés allaient effectuer des missions de police au-dessus des pays baltes, afin de surveiller qu'aucun appareil étranger, surtout russe, ne viole l'espace aérien de l'Alliance.
Et le président américain se rendait aujourd'hui dans l'Alaska pour parler des changements climatiques, une visite de 3 jours qui a toutefois commencé par une controverse autour du nom du plus haut sommet de l'Alaska et des États-Unis, le mont McKinley, car la Maison-Blanche a décidé de changer ce nom, appelant désormais ce pic le mont Denali, du nom du parc national où il se trouve.
Et bien sûr. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et nous passons tout de suite à la page économique avec Claire Morin-Gibourg.
Au Gabon, un contrat de 140 millions de dollars vient d'être signé pour moderniser l'agriculture. La Sotrader, partenariat public-privé, a signé un très gros contrat avec la société Caterpillar pour un achat de 475 bulldozers, précise l'agence APA. Ces engins seront utilisés dans des programmes agricoles dans le projet de retour à la terre lancé en décembre 2014 par le président Ali Bongo pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire les importations. Le Gabon dépense plus de 150 milliards de francs CFA chaque année pour importer les produits alimentaires. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a inauguré une super centrale à charbon à Medupi. Elle devra soulager le réseau électrique et minimiser les régulières coupures de courant qui affectent l'économie sud-africaine. Et puis le géant italien de l'énergie, Eni, a annoncé hier la découverte du plus grand gisement offshore de gaz naturel en Méditerranée, dans les eaux territoriales de l'Égypte. Le ministère égyptien du pétrole précise dans un communiqué que les opérations de développement devraient durer 4 ans.
Merci Claire Morin-Gibault pour la Minute Éco.
L'actualité sportive est dominée par le succès du Kenya aux Mondiaux d'athlétisme de Pékin devant la Jamaïque et les États-Unis. Timothée Donangmaï.
Et oui, Camille, le Kenya est devenu le premier pays africain à se hisser en tête de tableau aux Mondiaux d'athlétisme en remportant 16 médailles, dont 7 en or, notamment celle d'Asbel Kiprop aux 1500 mètres, David Lekuta Rudisha aux 800 mètres, Viviane Chiriot aux 10 000 mètres, mais aussi et surtout la spectaculaire médaille d'or de Julius Yego au javelot, une médaille qui permet, Camille, à l'Afrique de prendre pied dans une épreuve jusqu'ici dominée par les Européens. Et comme à son habitude, la Jamaïque a misé sur une valeur sûre, Usain Bolt, qui lui a donné 3 de ses 7 médailles d'or sur un total de 14 médailles gagnées. Les États-Unis, 3e, ont remporté lors de la dernière journée le 4x400 mètres hommes, mais se sont inclinés dans cette même épreuve chez les dames devant les Jamaïcaines. Un net recul pour les États-Unis qui rentrent avec 18 médailles, dont 6 d'or.
On signale un autre tour de force hier à Tunis où le Nigeria s'est imposé en finale du championnat d'Afrique de basket hommes en battant le champion en titre, l'Angola, 74 à 65.
Et oui, les Nigérians qui avaient perdu leurs 3 précédentes finales, en 1997 contre le Sénégal et en 1999 et 2003 contre l'Angola, ont su cette fois-ci se donner les ressources nécessaires pour s'imposer. Du coup, ils se qualifient pour le tournoi olympique de Rio 2016. La Tunisie a défait le Sénégal 83 à 73 pour la 3e place.
Et enfin, ici aux États-Unis, coup d'envoi à New York de l'Open de tennis des États-Unis. Tous les regards sont braqués sur Serena Williams.
Tout à fait, Camille. Victorieuse des tournois de Melbourne, Roland-Garros et Wimbledon cette année, la tenniswoman américaine pourrait réaliser le Grand Chelem en s'imposant à New York, ainsi qu'elle l'a fait sans relâche depuis 2012. Chez les messieurs, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, réalise une bonne année avec des victoires à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Toutefois, un de ses principaux rivaux, l'ancien numéro 1 mondial, Rafael Nadal, dit qu'il se sent proche de son meilleur niveau. Nadal et Djokovic pourraient d'ailleurs se croiser en quart de finale.
Merci Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Chérubin Dorcil et Camille Gros-Didier, place au dossier du jour, première escale, Bangui.
En effet, le Conseil national de transition de la République centrafricaine a adopté dimanche par 84 voix pour 6 voix contre et 4 abstentions, le projet de constitution qui sera soumis dans les mois à venir à un référendum. Alors parmi les grands axes de ce nouveau texte, plusieurs fois amendé, figure entre autres la création d'un Sénat. Félix Yepassi Zembrou a joint la vice-présidente du CNT, Léa Mboa Doumta.
Le CNT a ouvert la voie pour la marche vers le retour à la légalité constitutionnelle en mettant à la disposition du gouvernement la constitution pour l'organisation du prochain référendum. Pour ce qui concerne le contenu de notre nouvelle constitution, lors des travaux de la commission, il est ressorti que la base de cette nouvelle constitution était toujours notre constitution de 2004 qui n'était pas tout à fait mauvaise. Donc il y a eu quelques ajouts concernant le renforcement des pouvoirs de la justice, également le renforcement de la décentralisation pour que nos populations au fin fond de nos villages puissent s'impliquer dans la reconstruction du pays et ce qui découle également dans la mise en place d'un Sénat pour équilibrer les débats au niveau du Parlement. L'autorité nationale des élections a également été institutionnalisée parce que nous nous rappelons que les inégalités, les injustices dans l'organisation des élections qui constituent quelques facteurs de trouble dans notre pays. Donc voilà un peu ce qui ressort de ce nouveau document que nous allons soumettre au vote de nos populations.
Oui, parlons de la création du Sénat. Il semble que ce volet n'a pas fait l'unanimité. Qu'en dites-vous?
Bon, l'unanimité, sur 94 conseillers, 84 ont voté pour. Donc, le débat s'est passé à deux niveaux. D'abord au niveau des conseillers nationaux, ensuite au niveau de l'atelier des forces vives. C'est l'atelier des forces vives qui a rejeté l'idée du Sénat parce qu'ils estimaient qu'ils avaient des problèmes prioritaires. Aujourd'hui, nous avons deux camps, un camp des gens qui sont optimistes et un camp de ceux qui sont un peu pessimistes, qui ont des doutes. Donc, il est question que les nouvelles autorités qui vont sortir de cette transition s'attellent à l'organisation rapide des élections municipales. C'est à cela parce que le Sénat découle des autorités locales. Donc, c'est au pied du mur qu'on pourra juger de l'effectivité et de l'efficacité du Sénat dans les débats démocratiques.
Oui, madame, ce projet de constitution sera soumis à un référendum le 4 octobre prochain. Ce délai, selon vous,
pas précisément le 4 septembre, parce que les réalités prouvent que le chronogramme ne pourra pas tenir. Ça peut être le 4 comme ça peut être un peu plus tard. Mais ce qui est écrit, c'est que le référendum se tiendra avec un ou deux mois de retard. Personnellement, je ne vois pas de problème.
Ici Washington, c'était donc Madame Mboa Doumta, vice-présidente du Conseil national de transition en RCA.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Cap maintenant sur le Burundi, où la Banque centrale a retiré du circuit monétaire cette ancienne gamme de billets. Depuis hier, ces billets ne sont plus utilisés dans le commerce burundais. De nouvelles coupures de 2000, 5000 et 10 000 francs sont déjà employées dans les échanges commerciaux. Et les citoyens et étrangers qui n'ont pas encore échangé leurs billets devront payer à la Banque centrale une commission de 5% pour chaque billet. Les contribuables ne sont pas satisfaits, nous dit Christophe Nkurunziza.
Après avoir prorogé d'un mois la période de 3 mois qui était donnée aux Burundais et étrangers de remettre les anciennes coupures de 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 et 10 000 francs burundais, la Banque centrale de la République vient de décider que les retardataires devront payer à partir de ce dimanche une commission de 5% en vue de l'obtention de nouvelles coupures qui sont déjà sur le marché. Pourquoi alors avoir pris ces décisions? Clément Obuteke, qui est en charge des billets à la Banque centrale.
La Banque de la République a décidé de lancer une nouvelle gamme de billets parce que celle qui était en circulation était très ancienne. Or, dans les normes qui sont en vigueur dans les banques centrales, les coupures ne peuvent pas dépasser une période allant de 10 à 15 ans pour éviter que les faussaires n'arrivent à imiter les techniques de sécurité qui sont utilisées pour les protéger.
Sur l'avenue de l'Amitié à Bujumbura, ce commerçant vend des pagnes hollandaises. Il demande avec son ami qui vend des postes récepteurs de donner encore du temps et de diminuer le pourcentage pour les commissions.
Il y a des gens qui se lamentent, soi-disant qu'ils ont encore beaucoup de billets. Alors, ils se posent la question, où est-ce qu'ils vont mettre leurs billets alors qu'ils estiment que ces billets-là ont une valeur.
Bon, moi, le seul problème, c'est que quand on va échanger ces anciens billets, ils vous donnent moins que la valeur qu'ils avaient. Par exemple, si tu as 500 francs, ils te donnent 350 francs. Il y a des gens qui sont loin, ils ne peuvent pas tous aller les échanger directement. C'est une perte.
Mais pour la Banque centrale, le temps imparti pour remettre les anciennes coupures était amplement suffisant. Clément Boutoquet.
On avait donné au départ une période de 3 mois. Au terme de cette période, on a constaté qu'il y avait encore des billets en circulation. On a décidé de prolonger ce délai d'un mois. Et maintenant, nous estimons, au regard des chiffres que nous avons, que plus ou moins 92-93% des billets en circulation de l'ancienne gamme ont été retirés et sont déjà dans nos coffres. Maintenant, 7-8% qui restent en circulation seront échangés auprès de la Banque centrale et ses deux agences.
Dès le mois d'avril dernier, des nouveaux billets circulent déjà au Burundi, dans une économie qui ne fait pas beaucoup de recettes depuis les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Suite à la mort de deux journalistes en Virginie la semaine dernière, le débat sur le contrôle des armes est relancé ici aux États-Unis. Isha Sarae a joint Stéphane Berthomet, spécialiste de l'utilisation des armes par les policiers américains. On les écoute.
C'est difficile de dire quels vont être les grands axes qui vont se dessiner. Vous savez, très souvent, après une tragédie, il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions. Il y en a eu après chacune des tragédies qui s'est produite dans un établissement d'enseignement. On a dit qu'on allait faire des efforts pour régler la prolifération des armes, et notamment des armes de guerre. Ça n'a pas été fait. Il y a des lobbies très puissants qui sont en jeu. Moi, je suis plutôt pessimiste sur la capacité de changer la situation actuelle. Et je me dis qu'il vaut mieux attendre de voir dans les mois qui viennent si des mesures sont prises plutôt que de se fier aux déclarations qui sont faites immédiatement après des tragédies.
Est-ce que vous conseillez des citoyens à prendre des armes pour se défendre?
Écoutez, moi je ne suis pas un partisan de l'usage des armes par des simples citoyens dans leur vie quotidienne. Je pense que moins il y a d'armes en situation et moins il y a de risques que ces armes soient utilisées, soit dans des crimes et des délits par des bandes organisées, soit par des citoyens dans des conditions qui malheureusement ne sont pas celles de la légitime défense ou de la défense de la vie d'un autre. Alors, par expérience, plus il y a d'armes en circulation, plus il y a de risques que ces armes-là soient utilisées à mauvais escient. Donc, je suis plutôt un partisan du contrôle des armes et plutôt un partisan de restrictions assez claires quant à l'usage des armes et à la détention des armes. Il n'en reste pas moins qu'il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont des utilisateurs très avertis, très consciencieux et très sérieux d'armes à feu, les chasseurs, les tireurs sportifs, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il faut être capable de faire la différence entre ceux qui détiennent des armes et qui les utilisent de façon très sérieuse, qui les entreposent de façon très sérieuse, qui mettent toutes les chances du côté de la sécurité, et puis justement ces trafics d'armes, ces proliférations d'armes, l'achat d'armes par de simples citoyens dans le but de se défendre. Et là, à mon avis, on est vraiment dans deux univers différents. Il faut voir les choses de façon très très pragmatique dans cette problématique-là.
C'était donc Monsieur Stéphane Berthomet, spécialiste de l'utilisation des armes par les policiers américains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Revenons à cette visite du président Barack Obama dans l'Alaska. Monsieur Obama va rencontrer les habitants de la région. Il doit prononcer un discours devant les responsables locaux et internationaux et les scientifiques sur l'impact du changement climatique. Eric Manirakiza.
La conférence est intitulée « Glaciers selon la Maison-Blanche ». L'objectif, c'est d'éveiller la conscience sur l'impact des températures plus élevées sur l'Arctique et le reste du monde, mais également les mesures que les particuliers peuvent adopter contre le réchauffement climatique. Dans sa dernière allocution radiophonique hebdomadaire, M. Obama a déclaré que l'Alaska subit déjà les effets du changement climatique.
Bigger storm surges, more frequent and extensive wildfires.
Feux de forêt plus fréquents, des tempêtes plus fortes, la glace fond plus rapidement, un rythme d'érosion des côtes parmi les plus rapides au monde. Dans certains endroits, près d'un mètre par an, les glaciers de l'Alaska fondent également plus vite, menaçant le tourisme et exacerbant la montée des eaux. Et si nous ne faisons rien, les températures de l'Alaska devraient augmenter de 6 à 12 degrés d'ici la fin du siècle, en bouleversant à jamais toutes sortes d'industries. Le département d'État américain parraine cette conférence, même si elle n'a rien à voir avec les négociations prévues plus tard cette année avec les Nations Unies pour tenter de créer un plan contraignant de lutter contre le changement climatique. Ces pourparlers permettront de conduire la volonté politique, estime le président Obama. La conférence se tient après la publication d'un rapport de l'Agence spatiale américaine. La NASA a publié des données montrant que les niveaux de la mer augmentent plus rapidement en raison du réchauffement climatique, un phénomène qui se poursuivra, affirme Josh Willis de la NASA. Nous nous attendons à son intensification. Au fur et à mesure que la planète se réchauffe, les océans vont réagir et les calottes glaciaires et les glaciers qui fondent et qui contribuent à la montée du niveau des mers réagissent également au réchauffement climatique. Les scientifiques ont prévenu que laisser les températures augmenter de plus de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels se traduira par conditions météorologiques extrêmes et la hausse du niveau des mers, phénomène qui pourrait affecter toute la planète. Lundi, les participants à la conférence devaient se pencher sur plusieurs thèmes, dont la coopération scientifique, les énergies renouvelables, le renforcement des interventions d'urgence et la prévention de la pêche non réglementée dans l'Arctique.
Merci Eric Manirakiza. Alors, le président Obama se rend dans l'Alaska pour parler de changement climatique, mais sa visite de 3 jours a commencé par une controverse autour du nom du plus haut sommet de l'Alaska et des États-Unis, le mont McKinley. La Maison-Blanche a décidé de changer le nom, appelant désormais ce pic qui se situe à 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, mont Denali, du nom du parc national où il se trouve. Des parlementaires de l'Ohio s'en prennent à Barack Obama, notamment le président de la Chambre basse, John Boehner. Le sommet portait le nom du président William McKinley, un républicain de l'Ohio depuis 1896, après la nomination de McKinley comme candidat du parti. La sénatrice Lisa Murkowski de l'Alaska a remercié le président Obama pour ce changement qui témoigne, dit-elle, de l'honneur, du respect et de la gratitude envers les premiers habitants de la région.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Présentation Camille Grodidier et Chérubin Dorsil.
On remercie Cornelius à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Et retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.